La Méridienne.
Et tout de suite, on est en compagnie de Marc-André Sellos. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de passer ce petit moment avec nous. Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Vous avez un CV très conséquent, ça va être long de le dire en entier, mais vous êtes également membre de l'Académie d'Agriculture de France et le président de la Fédération BioG et professeur dans de nombreux instituts et universités. Présentation, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important ?
Non, peut-être juste une chose, c'est que je suis microbiologiste
oui.
Et que notamment je m'intéresse à la vie des sols.
Oui, c'est vrai que c'est votre sujet d'étude. La Fédération BioG, est-ce qu'on peut dire juste un mot dessus pour savoir un petit peu plus de quoi il s'agit ?
Oui, c'est un regroupement d'académies, de sociétés scientifiques, d'associations et de particuliers qui sont la voix de la biologie, des sciences vivantes et de l'environnement en France et qui veulent remettre ça au cœur de la formation des plus jeunes qui n'en ont pas assez. D'ailleurs, les plus vieux n'en ont pas eu assez, c'est pour ça qu'ils ont fait des bêtises en santé et en environnement. Et on organise notamment à Rouen tous les ans, ce sera du 13 au 15 octobre prochain, des journées thématiques pour montrer aux gens que nos disciplines apportent des solutions. Cette année, c'est microbiote, santé et environnement, et d'ailleurs, on parlera notamment des microbes du sol. Voilà.
D'accord. J'ai cru comprendre donc que votre sujet principal d'étude, c'était la relation qu'il y avait entre les racines et les champignons du sol, c'est ça ?
Oui, alors moi, en fait, à la base, je suis surtout mycologue et je suis venu au sol en traquant les modes de vie des champignons. Et notamment, certains champignons qui ne sont pas des pathogènes, ne sont pas des décomposeurs de matière morte, mais sont en fait des auxiliaires des plantes. C'est-à-dire qu'ils s'associent aux racines vivantes sans les tuer et... En échange d'un petit peu de sucre que leur donne la plante, ils vont faire les courses. C'est eux qui vont exploiter l'eau, l'azote, le phosphate, le potassium dans le sol pour le compte de la plante. Et ça permet aux plantes de vivre dans des sols qui sont relativement pauvres. Et en plus, ces champignons les défendent. C'est-à-dire que par leur présence, et parce que pour eux c'est un garde-manger, hein, la racine, ils défendent les racines contre les agressions du sol, contre les stress, comme le manque d'eau, ou contre les pathogènes qui attaqueraient les racines s'ils n'étaient pas là.
D'accord. Et donc, c'est en étudiant d'abord les champignons que vous en êtes venu à vous intéresser à l'ensemble du vivant qu'il pouvait y avoir dans le sol, c'est ça ?
Bah oui, parce que bon, c'est une grande maison, bourrée de monde, hein, et on finit par effectivement croiser les voisins,
ouais.
Les champignons. Et en fait, tous les processus du sol sont dominés par la vie, y compris tous ceux qui engendrent la fertilité, c'est-à-dire tous ceux qui, à partir de la matière organique, ou de la matière minérale, des petits bouts de pierre, vont petit à petit décomposer tout ça et faire de l'azote, du phosphate, du potassium que peuvent prélever les plantes, enfin, pardon, que peuvent prélever les champignons pour les donner aux plantes.
D'accord. Quel usage ça a d'étudier le sol ? Alors, je demande ça un peu de façon provocatrice, mais quand on étudie le sol, dans quel domaine d'activité de l'homme est-ce que ça s'avère utile ? Est-ce que, je pense évidemment à l'agriculture en premier, mais est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors oui, parce que en comprenant comment fonctionnent les sols, on peut trouver de nouvelles façons de faire de l'agriculture moins interventionniste, peut-être utiliser moins de pesticides, peut-être utiliser moins d'engrais minéraux qu'on retrouve dans les eaux continentales et dans les eaux littorales sous forme de marée verte. Hein. On peut aussi espérer mieux gérer demain et mieux entretenir les autres fonctions du sol. Le sol, il conserve l'eau qu'il rend lentement aux rivières et lentement aux plantes. Il la filtre quand elle passe dans les nappes phréatiques. Et il faut que ce travail soit fait. Et ça, croyez-moi, ça implique des microbes, ça. S'ils ne sont pas là, s'ils sont abîmés par les traitements du sol, ça ne marche pas. Le sol, il contribue aussi au climat. Il émet des gaz à effet de serre si on le gère mal. Si on le gère bien, notamment si on amène de la matière organique dedans, ça stocke cette matière organique, tout comme quand on plante une forêt. Et ça peut lutter contre l'effet de serre. Donc les sols font la qualité des eaux, la quantité de l'eau disponible, ils font le climat. Il y a tout un tas de fonctions à retrouver. Et d'ailleurs, demain, il faudra payer les agriculteurs aussi pour ça. Parce qu'en fait, quand ils gèrent nos sols, ils ne font pas que produire de la nourriture, ce qui est une des fonctions des sols, hein, mais ils font ou ne font pas les gestes qui permettent que les autres fonctions des sols soient accomplies.
Le 6 octobre prochain, vous donnerez une conférence au Bois d'Oin qui justement porte sur le sol. Et le titre de cette conférence, c'est « La plus riche construction du monde, le sol ». Donc justement, il est riche de quoi ce sol ?
J'ai failli vous dire ça, la question précédente, il faut venir à ma conf pour
Ouais.
savoir c'est le sol et comment demain on pourrait mieux préserver ça. Alors, en fait, le sol, c'est une cathédrale de diversité. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. C'est bourré de bactéries, de champignons, d'amibes. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous en montrerai. Et l'idée, c'est que tout ça, c'est une formidable complexité. On sait aujourd'hui qu'il y a dans le sol entre 25 et 60% des espèces vivantes. Et il n'y a pas que des animaux. D'ailleurs, il y a aussi les racines des plantes qui sont très actives. Et il faut donc arriver à comprendre ce qui se passe là. Et aussi bien en termes de diversité d'espèces que de mécanismes, croyez-moi, c'est splendide, c'est complexe. Mais il y a quelques leçons simples à retenir. Et elles ne vont pas toujours dans le sens de ce que l'on intuite ou de ce que l'on croit bien faire.
D'accord, ça peut surprendre.
Mais de toute façon, la science, c'est fait pour
Ouais.
surprendre. Ça ne sert à rien si ça confirme les idées reçues. Là, l'idée, c'est de se dire, tiens, il y a 3-4 trucs qu'on fait bien, et il y en a 3-4 que nous, citoyens, jusque dans nos actes de consommation, on pourrait faire différemment.
Et alors, il y a un mot moi, qui m'interroge plus particulièrement dans le titre de la conférence, c'est le mot construction. C'est quelque chose de, à mes yeux, très humain. La construction, c'est les humains qui construisent
Bon,
la façon
la
dont ils
forêt
imaginent les
est une
choses.
construction d'arbres,
Ouais.
un récif corallien est une construction de coraux. Construire, l'homme le fait bien sûr, mais il y a aussi d'autres espèces vivantes qui peuvent construire. Et en particulier, parmi les constructeurs du sol, il y a les vers de terre. La structure du sol, les trous qu'il y a dedans, les agrégats qui sont en fait les crottes des vers de terre. Le sol, c'est dans beaucoup de cas, les sols fertiles en tout cas, c'est des constructions de vers de terre. C'est-à-dire que c'est mis en place par leur activité.
D'accord. Le on m'a
Donc,
dit que
oui, moi, ça ne me gêne pas de
D'accord,
dire
c'est
que nous sommes très naturels par le fait que nous construisons, parce que d'autres espèces ont construit des choses avant nous. Après tout, comment vous appelez ce que fait un oiseau quand il bâtit un nid?
vrai qu'il construit, c'est vrai.
Et nous ne sommes pas si hors nature que ça,
Ouais.
mais si on retrouve le sens de ce que ça veut dire, le fait que nous soyons dans la nature, nous retrouvons un sens à nos vies. Tiens, par exemple, vous découvrirez notamment que nos urines et nos fesses, nos crottes, tout ça devrait retourner au sol. Parce que c'est de l'engrais et de la matière organique et que nos sols en ont considérablement besoin. Vous voyez, quand on a compris qu'on est naturel, on s'aperçoit que, ben, on fait partie des organismes qui peuvent nourrir le sol. Ah, oui, alors j'ai peut-être oublié de vous dire, parce que ça, on le sait intuitivement, que dans le sol, il y a aussi de la matière organique morte, de la matière minérale, des morceaux de roche, qui sont d'ailleurs tous en train d'être attaqués et de libérer de la fertilité, hein, sous l'effet du vivant, et puis de l'air aussi et de l'eau qui passe dans les trous. Des trous d'ailleurs qui sont faits par les organismes vivants du sol. Au total, il y a une petite fraction de vie qui fait tout, et puis plein d'autres éléments auxquels on pense d'habitude. Mais pour mettre en mouvement tout ça et comprendre comment ça marche, cette petite fraction de vie, elle est vitale, enfin, elle est nécessaire à comprendre, elle est pivot, et c'est sur elle que demain on doit mieux agir pour que le sol nous rende mieux les services, notamment d'alimentation, pour lesquels nous devons apprendre à l'aimer.
Ouais. Justement, vous dites qu'il faut mieux agir en lien avec le sol. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on l'a pas forcément toujours bien fait. C'est quoi les mauvaises pratiques qui ont pu On parle souvent de l'humanité qui a tué le sol à beaucoup
Elle n'a
d'endroits.
pas tué le sol, mais elle a effectivement vraiment estourbé le sol. Il y a moins d'organismes vivants, quelques espèces, pas trop, mais quelques espèces ont disparu localement. Trois choses. Un, le labour. Vous savez, le labour, ça tue. D'ailleurs, ça tue les plantes et une des fonctions, c'est de désherber. Mais ça tue aussi les animaux du sol et les champignons du sol. Une deuxième chose qu'on fait mal, c'est qu'on n'amène plus assez de matière organique au sol. On récolte des choses dans les champs, on amène les engrais non plus sous forme de fumier, mais sous forme d'engrais minéraux. Les sols manquent de matière organique et ça, avec le labour, ça contribue à les faire s'éroder 10 fois plus vite qu'ils ne devraient s'éroder. Et puis, l'absence de matière organique, ça fait des sols qui retiennent plus l'eau. Et avec les étés secs qu'on a, c'est un drame. Donc, vous voyez, ne plus labourer, amener de la matière organique. D'ailleurs, ça passe par toujours couvrir le sol, même en hiver. Les sols nus en hiver, c'est un non-sens. Parce qu'en dessous, ils sont en train de crever. Ou en tout cas, ils sont affamés. Et puis, plein d'autres apports qui ne sont pas bons, mais les pesticides, bien sûr, mais je voudrais juste vous parler des engrais minéraux, parce que quand on amène des engrais minéraux plutôt que du fumier, il y a tellement à manger que les plantes congédient les fameux champignons mycorhiziens. Vous savez, ces champignons associés aux racines
Ah,
sur lesquelles
elles n'ont plus besoin des champignons.
mais vous ne payez pas quelqu'un pour aller chercher du pain quand vous habitez au-dessus d'une boulangerie.
Vrai.
Mais au passage, vous perdez la protection des racines. Et vous avez des plantes qui sont plus facilement malades et qui appelle des pesticides pour tuer ce qui les rend malades. Donc, il faut aujourd'hui, autant qu'on peut, et il y a des pistes, et j'en montrerai, trouver des formes d'agriculture qui s'appuient plus sur ce qui existe dans la nature auparavant, au lieu d'essayer d'intervenir à chaque fois qu'il y a un problème avec une rustine ponctuelle qui, en fait, disons-le, et je choisis mes mots, fout le bordel tout en résolvant un petit problème.
Et alors, en faisant un petit peu mes recherches, j'ai découvert que vous parliez de quelque chose, c'est le projet, le plan 4 pour 1000. Quand on parle d'écologie, on entend souvent en ce moment des mauvaises nouvelles, et là je trouvais que c'en était une bonne, et j'aurais bien aimé que vous...
À propos du sol, sachez-le, il y a plein de bonnes nouvelles. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'origine du monde, ouais, chez Actes Sud, qui raconte le sol. Et puis, on a fait une BD avec un dessinateur belge qui s'appelle Souterre, chez Dargo. Parce qu'il faut qu'on raconte tout ce qu'on peut faire avec le sol. Et une des choses qu'on peut faire, vous avez raison, c'est le 4 pour 1000. En gros, le 4 pour 1000, il fait le calcul grossier suivant. Si on enrichit de 0,4%, soit 4 pour 1000, tous les sols du monde en matière organique tous les ans, 0,4% par an, eh bien, la matière organique qui contient du carbone, c'est autant de carbone qui n'est pas dans l'air. Et c'est comme quand on fait une forêt. Vous avez du carbone qui n'est pas sous forme de CO2, mais qui est dans la forêt. Si vous mettez de la matière organique dans le sol, ça piège du carbone qui n'est pas sous forme de CO2 dans l'air. Et si vous en mettez 4 pour 1000, 0,4% de plus de matière organique par an, eh bien, vous avez contrebalancé l'effet de serre produit cette année-là. Entendons-nous, on n'arrivera pas forcément à le faire partout, mais ça veut dire qu'un des leviers, c'est de remettre de la matière organique dans le sol, celle de plantes qui auront poussé en hiver et qu'on va juste broyer au sol, celle de nos poubelles qu'en 2025, toutes les municipalités devront ramasser sélectivement, donc matière organique de cuisine notamment, et puis aussi le fumier des animaux, tout simplement. Et en remettant cette matière organique dans le sol, on peut contribuer à lutter contre l'effet de serre. C'est important parce que ça, vous avez raison, c'est génial, c'est une solution, mais quand on comprend comment marche le sol, et si on a fait l'effort de comprendre, il y a plein de solutions pour la santé des hommes, la santé des plantes et l'environnement, et qui pointent le bout de leur nez.
Effectivement, la conférence dont vous allez parler, le plus riche construction du monde, le sol, j'ai cru comprendre qu'elle s'inspirait de votre livre « L'origine du monde ».
C'était... C'est ça où je détaille cette construction. C'est une visite de la construction en question et de son fonctionnement.
Et je vous ai entendu dire dans une interview que l'objectif de ce livre, c'était de transmettre aux générations futures le fonctionnement de ce monde pour qu'il puisse continuer.
Mais
d'exister.
Oui, l'idée, c'est que vous et moi, on sera sans doute morts avant que l'érosion induite par le labour ou les dégâts du changement climatique amplifiés par le fait que le sol stocke mal l'eau faute de matière organique, nous mourrons sans doute avant que ces problèmes-là soient aigus. Par contre, si on gère bien nos sols maintenant, on transmettra un monde à nos enfants où il y aura plus d'outils de gestion, il y aura plus d'espoir de continuer à vivre dans des conditions décentes. Et c'est vraiment la notion de patrimoine, parce qu'un sol, ça demande plusieurs centaines d'années pour se mettre en place. Ça ne se fait pas comme ça. Évidemment, vous avez peut-être cette impression, parce que devant la mairie, on a enlevé des dalles et on a ramené du sol. Ben non, on l'a ramené. Mais on ne refait pas des plaines céréalières en un claquement de doigts. Et donc, ce qui est important, c'est de voir le sol comme un patrimoine et de comprendre à la fois en quoi ce patrimoine est important pour plein d'autres choses, comme le climat, l'alimentation ou le cycle de l'eau. Mais en même temps, comment on peut aussi le transmettre. Parce que si on aime ses enfants... Il faut lire le mode d'emploi des sols avant de s'en servir. Et ça, ce n'est pas qu'un problème agricole. C'est aussi le problème des choix de consommation que vous faites, qui vont valider ou pas des façons de gérer les sols que vous souhaitez ou pas.
C'est-à-dire que le sol, des fois, il se fait un peu discret aussi. C'est qu'on l'oublie facilement, le sol dans notre vie au quotidien. Je me pose rarement la question de qu'est-ce qui se passe sous mes pieds et qu'est-ce qui se passe.
Mais c'est comme les dents. Les dents, personne n'est conscient qu'il a des dents la plupart du temps. Enfin, je suis sûr que vous ne venez pas de penser ah tiens c'est vrai j'ai des canines. Dès que vous avez une carie, là vous ne pensez plus qu'à ça.
Exactement, c'est vrai.
En nous pensant un tout petit peu avant et en se brossant les dents par exemple, on peut ne pas avoir de carie. Et à un moment, il faut réaliser qu'il y a des tas de choses anodines autour de nous qui demandent des petits gestes anodins complémentaires pour continuer à rester anodine. C'est pas évident, je sais, et c'est pour ça que je fais des conférences, et des livres, et des BD.
Très bien. Le rendez-vous est donné donc le 6 octobre à 20h au Bois d'Oin pour une conférence donc organisée par l'association Demain, c'est ici et maintenant. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé.
Merci.
Et puis à très bientôt.
Au revoir. La Méridienne.